Salut la gang, bienvenue à ce 31e épisode de Femmes de fer. Je reçois une femme d'affaires incontournable dans le milieu de l'alimentation, Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook It. Je suis vraiment contente de discuter avec elle des changements qu'une crise peut amener à son entreprise, de sa vision de l'entrepreneuriat au féminin, mais également de ses expériences qui ont été parfois difficiles pour réussir dans son domaine. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô, Judith!
Salut, Sophie!
Ça va bien?
Ça va très bien, très, très bien. Toi?
ça va, comme dans les circonstances, ça va très bien. Et je suis extrêmement contente qu'on trouve le temps, en fait, quelques minutes pour se parler, parce que je sais que tu es ultra, ultra débordée. J'arrête pas de voir tout ce qui se passe de ton côté chez Cook It. Et je suis franchement... impressionnée, je dois avouer que je suis une fan de ton entreprise depuis vraiment, je pense depuis les débuts ou presque là. Je t'ai vu évoluer, j'ai vu tout ce qui s'est passé, puis j'ai vu ce qui s'est passé aussi durant la crise, toutes les offensives que t'as installées avec ton équipe. Et j'avais besoin de te parler pour comprendre comment tu fais pour survivre et comment évoluer comme ça. Écoute, Judith, avant de commencer, de te lancer dans le bain, je veux savoir pour ceux qui ne te connaissent pas. Peux-tu peut-être te décrire en quelques mots, dire qu'est-ce que Cook It?
Cook It, c'est une entreprise qui fait des kits à cuisiner. Donc, chaque semaine, on propose des recettes à nos clients. Donc, 14 nouvelles recettes créées par des chefs québécois avec des ingrédients québécois. Donc, nos clients vont recevoir tous les ingrédients pré-portionnés accompagnés d'une fiche recette et c'est livré aux quatre coins du Québec, de l'Ontario, des Maritimes maintenant. Et Cook It, maintenant, a presque 6 ans. Donc, ça fait... je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le domaine des kits à cuisiner. Ça grandit de jour en jour et je pense que j'ai de plus en plus de fun de jour en jour. Peut-être pas vrai, mettons, l'année 4 a peut-être été plus difficile, mettons. Hein? C'est une des valeurs principales de Cook It. C'est le fun et la famille. Puis si on le décline vraiment, que ce soit la famille à la maison, mais aussi au bureau, la famille avec les amis. Il y a vraiment cet esprit de communauté-là, de collégialité-là, que je pourrais dire, chez Cook It, qui existe, qu'on est autant sérieux, puis innovant, puis ambitieux, mais qu'on aime vraiment faire des jokes aussi, fait que, par exemple, sur notre Slack, il se passe pas mal de niaiseries, admettons. Fait que c'est d'essayer de trouver, tu sais, on travaille vraiment beaucoup, mais c'est d'essayer de tout le temps garder le fun. Okay. Fait que ça, c'est Cook It, mais mettons, moi, avant de lancer Cook It, j'ai fait environ 10-15 ans en hôtellerie, restauration. J'ai comme le CV le plus long de la planète, là, dans le sens que j'ai à peu près, si je les mettais toutes mes expériences de travail, j'aurais 12 pages d'expérience de travail. Tellement d'échecs à travers ça, tellement de choses que j'ai soit lancé, que ça n'a pas marché, que je me suis fait congédier de job par rapport, là, genre du pill pub, de trucs comme ça. Mais toujours, tu sais, la narrative à travers mon histoire, c'est vraiment... Tu sais, oui, il y a beaucoup d'échecs, mais il y a aussi, tu sais, je savais, tu sais, c'était comme clair qu'est-ce que je voulais, mais je savais pas comment l'atteindre, par exemple, parce que justement, j'avais pas été très tenace dans ma vie. Puis Cook It, c'est vraiment la première affaire vraiment que je tiens, puis que, tu sais, que je lâche pas le morceau, là. Puis 6 ans, puis je suis toujours autant passionnée, si c'est pas plus.
Quand tu dis que c'était clair ce que tu voulais, tu parles quand tu étais jeune, quand tu étais ado, tu disais « je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient » ou tu parles au fil du temps?
Le prénom que ma famille m'avait donné, c'était « qualité de vie ». Il m'appelait « la qualité de vie, qu'est-ce qu'elle veut, elle? » Parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais, mais je savais, mettons, comme... ma vision là, de où est-ce que Judith serait quand elle aurait 30 ans, 40 ans, était comme claire, mais comment m'y rendre, ça, c'était comme un gros flou, là, je savais pas.
Qu'est-ce que tu avais en tête?
Avec mon meilleur ami, quand on habitait ensemble, sur l'avenue Saint-Laurent, juste en face du Tokyo Bar, on a habité là comme pendant 5 ans. Puis on avait le livre de « Il faudrait ». Puis ça, c'est qu'on finissait de travailler dans les bars vers 3h, 3h30, 4h, puis on revenait à la maison toutes les deux. Puis là, on s'assoyait dans le salon, on se prenait sur un verre, peu importe. Puis là, on parlait de toutes les affaires qu'il fallait faire dans la vie. Puis là, c'était notre livre de « Il faudrait ». Ça a été comme... Ça a vraiment été un élément qui était déclencheur dans ma vie parce que c'était une époque où ce que j'avais full de créativité. Par contre, il y avait très peu de mise en action, il y avait très peu de faire pour de vrai, tu sais. Puis la journée que j'ai comme compris, puis ça m'a pris longtemps, ça a pris comme 2 ans avant que j'aie ce petit déclic-là, que la seule différence entre les gens qui ont puis qui font, puis les gens qui le font pas, c'est juste de faire, tu sais. Que ce soit en entrepreneuriat, tu sais, je me considère un peu une entrepreneur exceptionnelle, vraiment pas loin de là. Mes employés, tu sais, ils savent que je suis pas la patronne, la meilleure patronne de la planète Terre, mais comme justement à chaque jour, j'essaye tout le temps de faire, puis on essaye toute la gang de faire ensemble, on arrive à un beau résultat, tu sais, que ce soit de lancer une OBNL ou de devenir musicien ou peu importe, tu sais, souvent la seule différence entre c'est le faire, c'est le pouvoir de faire. Puis c'est un de mes conseils préférés. Mettons, quand j'étais plus jeune, là, puis je regardais certains modèles, tu sais, mettons, je me souviens, je regardais les dragons, OK? Puis, tu sais, je regardais les dragons, puis je trouvais tellement que ça avait de l'air inatteignable, leur succès, que c'était tellement pas hors de ma portée. Tu sais, j'adore Christiane Germain, mais j'avais tellement pas l'impression qu'on avait le même ADN, puis que j'avais tellement l'impression que, tu sais, c'était comme justement tellement loin de moi, que j'aime ça, le démocratiser, ça, de faire comme
ça. Mais quand on sait pas par où débuter. Je pense que c'est ça qui est le plus tough, en fait, le plus difficile, c'est de se dire, bon, j'ai une idée, là, mais là, au lieu juste d'y penser, d'y rêver, puis de l'avoir en tête, je vais le faire, puis au day-to-day, là, je vais tellement me mettre là-dedans qu'un jour, ça va devenir mon travail, ça va devenir ma passion, ça va devenir plus grand que tout. Toi, quand t'es arrivée à l'idée Cookit, là, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, là, tu t'es dit, au lieu de juste rêver puis de penser aux choses que tu as en tête, de faire hey, ça, là, je le prends, puis je continue la journée d'après, puis l'autre journée, puis l'autre journée?
Bien, moi, mon cerveau est fait comme pour faire des processus. T'sais. Quand tu es une serveuse, là, je pense vraiment que c'est comme c'est l'apprentissage que j'ai appris dans l'hôtellerie. Quand tu es serveuse, tu dois faire une suite d'actions logiques que tu dois faire instinctivement, mais à longueur de journée. Tu sais, si, admettons, tu vas sur la terrasse puis tu n'apportes pas les ustensiles pour le prochain client puis tu es tout le temps en train de faire des allers-retours, tu vas être la pire serveuse au monde, même si t'es bien fun, même si t'es bien funny. Tout le monde va être en tabarnak contre toi parce que tu es prêt à sortir tes assiettes. Mais je pense que ça, c'est comme vraiment, mon cerveau l'a appris, puis je m'en rendais pas compte à l'époque à l'impact que ça aurait sur ma vie. Je pense vraiment que c'est mon expérience de serveuse que j'ai appris à justement, tu sais, avoir une suite logique d'étapes pour comment me rendre dans un tel but. Tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était quelque chose que je connais pas tant dans ma famille, que j'avais comme, tu sais, une couple de liens avec l'entrepreneuriat. Puis après ça, je suis allée travailler chez Gaz Métro, maintenant Énergir, pendant que je finissais mon bac, qui était vraiment le choix traditionnel que, tu sais, toute ma famille, tout le monde m'encourageait à faire. J'avais un bon petit salaire, je faisais pas trop de journées de travail, la vie était quand même relaxe. Mais j'ai sombré pendant la plus profonde dépression que j'ai eue de toute ma vie parce que je voyais comme pas le purpose de vivre même, tu sais, de refaire la même chose à tous les jours. C'était quelque chose qui me rendait de pas pouvoir innover. Tu sais, j'avais tellement de fougue en moi qui me disait genre, mais non, moi, je ferais pas ça comme ça. Tu sais, je voudrais le faire d'une autre façon. Ça a fait comme le perfect storm qui a fait en sorte que je suis partie en congé dépression. Là, j'ai pris... Puis pendant ce temps-là, la première semaine, j'ai dormi 24/7, puis après ça, j'ai commencé à écrire des plans d'affaires, mais comme si je suis dans une phase maniaque, là, tu sais, un peu. Puis j'écrivais des plans d'affaires, genre 24 heures sur 24, puis là, je partais, puis là, c'était une app de dating, puis après ça, c'était rendu un truc de thé, puis après ça, c'était rendu ci. Puis à un moment donné, j'ai entendu parler du concept de Cookit, qui était un pignon sur rue en Allemagne, puis ça n'existait pas au Canada, ça n'existait pas aux États-Unis, puis je me suis dit, OK, c'est vraiment cool ça. Puis je voulais faire comme un merge de ça qui existait, que, tu sais, mettons, qui était une boutique que tu allais chercher, tes sacs recettes comme en bas de la place Ville-Marie, mais à Berlin, mettons, en finissant le travail. Mais merger avec Frankenhold, qui était vraiment dans son pic de commerce électronique à ce moment-là, avec le Crate et tout, puis que c'était vraiment comme une entreprise qui était, tu sais, qui m'inspirait tellement, puis que je trouvais tellement cool, social, tu sais, responsable et tout. T'sais, ça a pris quand même un an et demi, mettons, entre l'idée initiale, plein de périodes de doutes, plein de périodes de questionnements, retourner travailler chez Gaz Métro, ça marche, ça marche pas, mettre ça sur pause pendant 3 mois, revenir, faire 40 heures, relaisser ça, venir, puis finalement le lancer.
Mais je pense que ce que tu décris là, le un an et demi, on l'oublie souvent ça quand on parle d'un succès d'une entreprise parce que oui. On a l'impression qu'on a l'idée, le lendemain, l'entreprise existe, c'est parti, puis là, ça marche. Mais le un an et demi que tu as pris à développer, à remettre en question, à faire les doutes assis à ça, c'est un chemin quand même important pour l'entrepreneur parce que ça te teste à te dire est-ce que je suis prête à me lancer là, là. Fait que quand ça a ouvert, Cookit.
Puis ça teste, mais. J'aime pas ça quand on le positionne comme ça, parce que si pendant les 2 semaines que tu y crois plus, tu te dis « Ah, ben c'était un test finalement, puis je suis pas faite assez fort. » Tu sais, surtout les femmes, là, on est les expertes là, de douter en soi, puis de se dire qu'on va être de la merde, puis que ça va jamais marcher, puis tout à l'heure. Puis de toute façon, se lancer en business, là, pendant ma première année avant Cookit, puis pendant la première année après le début de Cookit, tout le monde se doit de te donner son opinion pourquoi ça va pas marcher, mais ouais. C'était genre c'était une fête foraine de ah non c'est le fun ton projet mais ouais mais tu sais ça marche pas à cause de ça.
Comment tu t'es bloqué de ça justement de toutes les gens autour de toi qui parce que tu te décris toi-même que quelqu'un qui a jamais vraiment accompli des choses avant, tu laissais tomber des trucs là, tout d'un coup tu avais ça en tête, tu t'as décidé de le prendre sur tes épaules. Comment tu as décidé de bloquer tout ça autour de toi, les gens négatifs ou le monde qui sont comme « Ah, t'es sûr que ça va marcher? » Il me semble que tu te mets beaucoup de pression.
Tu peux pas les bloquer. L'affaire, c'est qu'il faut que tu développes ton argumentaire. Fait que les gens disent « Oui, mais ça va pas marcher à cause de ça. » Ce à quoi Cookit était il y a 6 ans et ce à quoi c'est aujourd'hui, il y a vraiment une crise de grosse différence entre les deux. Mais la plupart des gens qui étaient comme des t'sais, qui chialaient sur ça, il y avait raison à un certain point, tu sais, puis dans le sens que c'est mon feedback le plus proche. Fait que je peux pas me fermer à ça parce que c'est les seuls gens qui vont me donner du feedback, tu sais.
Est-ce que ça te challenge de les entendre comme ça, de dire comme « Attends, regarde-moi bien aller, là. »
Oui. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter à cause de ça, justement. C'est que l'année passée, on regardait pour faire le party de Noël, puis je suggère à ma gang, « Hey, on va se louer. » Puis on était vraiment une plus petite équipe que ça à l'époque, là. Mais on va se louer une limousine, ta-ta-ta. Là, j'avais comme tout fait le plan. Puis tout le monde était comme, c'est peut-être pas l'équipe marketing, mettons qu'elles autres sont tout le temps plus funny, là. Mais mettons, tu sais, tout le monde d'opération, puis ça faisait, tout le monde était comme, « Ouais, mais nanana. » Puis c'est là que ça m'a comme struck, que j'étais comme, « Hey, même un Christy de party, il faut que je le défende. » Tu sais, dans le sens que chaque idée, chaque affaire que je fasse, il faut tout le temps qu'il y ait de la résistance au changement. Tu sais, que ce soit de lancer une entreprise ou juste organiser un Christy de party, genre, c'est moi-même qui paye. Le monde, il faut qu'il chiale pareil. Mais d'un autre côté, le monde qui chialait était comme, « Ouais, mais admettons, on va arriver trop tard à telle place. OK, parfait, bon point, ajustons ça. Ouais, mais nanana. OK, parfait, ajustons ça. » Puis quand t'es rendu à le pitcher à la dernière personne, entre ton pitch initial puis ton pitch final, la différence, est vraiment, c'est plus le même projet, mais maintenant ton projet prend en considération les parties prenantes de tout le monde. Puis c'est vraiment ça ma job maintenant, hein, c'est de m'assurer que et les clients, et les employés, et les actionnaires, et les investisseurs, et les ci, et les ça, et les t'es, que tout le monde soit comme sur le même projet, dans la même vision. Hein.
Parce que moi, ce que j'ai remarqué, là, tu dis que ça fait 6 ans que Cookit existe, tu as évolué à la vitesse grand V pour une entreprise. Parce que les premières années sont souvent du struggling, la difficulté, l'apprentissage, comprendre ton client, comprendre tes fournisseurs, comment tout le fonctionnement. Mais toi, en 6 ans, ben, peut-être c'est moi de l'extérieur aussi, puis toi, tu dis dans ta tête, ça va pas assez vite, là, mais j'ai l'impression que tu as évolué, ça a explosé.
C'est un peu, t'as super raison, c'est vraiment c'est un peu des deux. Il y a une partie de moi qui me dit que tout va trop lentement, puis il y a une partie de moi qui n'en revient pas à quel point ça va vite. Ouais. C'est comme deux univers que je cohabite. Des fois, mettons, quand tu parles de croissance des ventes ou des trucs comme ça, il y a eu des périodes où le temps, je peux te dire qu'il passait pas très, très vite. C'était très long. Puis il y a d'autres temps, comme par exemple les 6 dernières semaines, ça fait combien de temps qu'on est en pandémie? Là? J'ai pas vu une minute, là, tu sais. Mais moi, mon évolution personnelle à travers ça, c'est vraiment incroyable. Je te le dirais que c'est vraiment dans les 2 dernières années là, que j'ai commencé à plus owner mon rôle de COO, puis de comprendre c'était quoi, qu'est-ce que je devais faire, comment je devais piloter une équipe. Tu sais, c'est tough de devenir un CEO. sais, mettons, je sais pas que j'étais particulièrement jeune, mais avec aucune expérience de gestion, aucune expérience de livrer un projet, aucune expérience de gestion des opérations. Tu sais, j'étais vraiment une néophyte. La plupart de mes employés avaient plus d'expertise que moi dans bien des affaires, tu sais.
Comment tu te démarques face à tes employés comme ça, justement? Est-ce que tu avais le syndrome de l'imposteur de te dire comment je m'excuse, j'ai pas assez d'expérience face à vous, ou t'es tellement passionnée par ce que tu fais que t'es allée au front?
Je pense que c'est vraiment grâce à mes employés que je me suis nourrie puis je suis devenue meilleure. Tu sais, je m'inspire. Tu sais, que ce soit mon chum Pat qui est comme probablement mon mentor numéro un dans la vie, mais que ce soit mon associé Paul, ma directrice marketing Laurence, tu sais, chacune de ces personnes-là, Élic, tu sais, je m'inspire de eux autres, de leurs meilleures pratiques, de qu'est-ce qu'ils font, je trouve inspirant, puis je fais comme, ah ouais, ça c'est bon, je vais faire ça. Au début, quand tu lances, t'as moins d'argent, fait que je veux pas dire que t'as quand même des employés qui ont beaucoup moins d'expérience. T'es une gang de jeunes qui, tu sais, je me souviens justement, là, la gang de Frank and Oak, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que comme on les trouvait cool, on est allé souvent à local au 160 du Saint-Viateur, au 8e étage, quand les autres étaient au 5e étage, je pense qu'ils se disaient, on va devenir leurs meilleurs amis, on va leur payer de la bouffe, puis ils vont venir nous aider. Puis genre, tu sais, one thing led to another, puis deux minutes plus tard, mon mentor s'était rendu Raph Paquin, qui était CTO de chez Frank and Oak, mon designer s'était rendu le designer de Frank and Oak, tu sais, c'était comme, parce qu'on s'est dit, on va se faire amis avec eux autres, puis finalement, tout le monde était comme « Ah, cool, on va embarquer! »
T'as su bien t'entourer, mais je sais que t'es allé aussi présenter ton projet à Adopt Inc.
Ouais.
Et ça t'a donné un autre boost, c'est vraiment.
Moi, j'ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie de coquette là, à faire des maudits concours, puis des ci, puis des ça, puis des bourses de 2000$, puis tatati, tatata, tu sais, quand j'aurais dû être comme plus ambitieuse, puis attaquer des plus gros défis. Mes deux premières années, c'est ça mon plus grand mea culpa, mettons. Mais Adopting, je peux te dire que ça a vraiment changé ma vie, là, de rencontrer un mentor. Puis la subvention, tu as comme un salaire de 24 000 qui t'est donné, là, c'était vraiment cool. Mais après, que ce soit 2 000$ par mois, ça finit là, dans le sens que c'est pas tant l'argent que ça qui a fait la différence, mais surtout la relation avec Alain Bouchard. Cet homme incroyable, là, qui est comme, tu sais, je suis sa fan numéro un. Là, je pourrais me faire une collection de t-shirts I love Alain Bouchard. Hein? Parce qu'une des craintes que j'avais, j'ai un petit côté rebelle, puis un petit peu fatigante, que genre justement, tu sais, mets-moi pas avec des mentors, puis des si, puis des ci, mon Dieu, que je trouve que c'est du gossage, puis de la perte de temps, puis des pratiques, puis des si, genre, comme je m'emmerde vraiment. Fait que quand j'ai rencontré M. Bouchard, ma première rencontre, je paniquais un peu, je me disais, comme je veux pas le trouver lourd, puis trouver son feedback comme s'il me tapait ses nerfs. Fait que, j'avais vraiment peur qu'il me donne du feedback. Je veux pas être pas fine, mais mettons, de personnes pas en e-commerce, mettons. La première minute que je le rencontrais, il avait tout compris du business model, de qui moi j'étais, de mon équipe. Il me donnait du meilleur insight sur ma business. Ça faisait 4 minutes que je le connaissais, que moi qui étais dedans. Là, son succès, il est vraiment pas tombé du ciel. Là. C'est vraiment une intelligence d'affaires phénoménal. Fait que quand je suis ressortie de ma première rencontre, j'étais vraiment chanceuse. Là, j'étais comme finalement un mentor où je suis pas comme complètement bored.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Jusqu'à maintenant, tu trouves que ça a été quoi ta pire erreur? Tu dis que ta 4e année a été vraiment difficile.
Ma pire erreur, c'est justement de ne pas avoir été aussi ambitieuse. Nous autres, on a lancé, on était les premiers au Québec, au Canada, on se dit « OK, petit train va faire son chemin, on n'a pas pivoté assez vite, on n'était pas assez... relancer notre business aujourd'hui, tout serait différent. » C'est d'avoir pas été assez... J'avais tellement peur, là, tu sais, mettons, je me serais dit que j'aurais pu aller chercher du capital de risque et avoir des investisseurs. Je faisais mes pitch decks, là, puis encore à ce jour, j'en ai pas fait un au complet de A à Z, là, dans ce que j'aide dans la structure et tout, là. Mais j'essayais de faire des pitch decks, puis finalement, je finissais par pitcher mon ordinateur, puis je braillais. Puis j'étais comme, c'est sûr que ça marchera pas, laisse faire. Puis pendant ce temps-là, j'avais des compétiteurs qui, eux autres, ils avaient pas ces craintes-là, tu sais. Eux autres, qui allaient chercher du capital de risque, ils étaient confortables comme des poissons dans l'eau d'aller le faire. Fait que ça m'a vraiment beaucoup retardée jusqu'à un point où j'étais sûre que je les rattraperais jamais, tu sais. Mm-hmm. Comme à un moment donné, le bateau avait tellement passé. Fait que ça a été, tu sais, justement, là, de perdre du temps sur des affaires qui étaient beaucoup moins importantes parce que je voulais pas affronter des affaires qui étaient plus grandes que je me... Tu sais, justement, parce que je me disais « je serais pas capable ». Mais finalement, des gens qui font des levées de fonds, des trucs comme ça, tu sais, c'est pas du monde bien, bien différent de nous autres, tu sais, mm-hmm. parce qu'on est tous pareils, on a toutes les mêmes craintes, on a toutes les mêmes...
Puis qu'est-ce qui t'a fait passer à l'autre étape? À dire, là, j'ai plus peur, let's go, je fonce, parce que la compétition, elle arrive, là, parce que Cookit a quand même plusieurs compétiteurs en ce moment, pour de différentes façons, différents menus, différentes choses, mais il faut quand même que tu te positionnes toujours puis te dire comme, non, c'est nous, là, la solution. Les autres sont cool, mais nous autres, on l'est encore plus.
Ben, les autres sont pas vraiment cool, mais bon, c'est un autre sujet.
Vous autres, vous êtes cool, les autres existent.
C'est ça. Les autres qui ont de l'argent, nous autres, on est cool. Mais c'est juste de commencer, tu sais. Genre, j'ai commencé, mon premier pitch, je l'ai fait en Anges-Québec. Tu sais, si tu me demandes mon avis, est-ce que ça vaut la peine d'aller en Anges-Québec? Absolument pas. Puis je m'excuse pour peut-être les gens qui vont écouter ça qui viennent d'Anges-Québec, là, mais c'est une très bonne expérience. Mais... est-ce que ça vaut la peine? Mais en, parce que c'est ça qui m'a donné mes premières armes. T'sais, c'est ça que... j'avais pas le choix de faire ce pitch-là. Il y avait tellement de monde. Tu pitches comme devant 200 anges investisseurs à Montréal. 98% des gars. T'sais, comme, t'sais, des hommes d'affaires qui ont bien réussi dans leur vie. Sois assez solide. Là, t'sais, faut... ouais. Puis une fois que j'ai fait ça, ben après ça, de faire un pitch devant 2-3 personnes, devant un banquier aussi, ça, t'sais, ça enlève vraiment la pression. Là. T'as pitché devant 200 investisseurs québécois. Là, t'sais,
ouais.
T'es tellement passionné de ta business que tu comprends que c'est juste ça qu'ils veulent entendre. Là. Justement, quand on parlait de ma quatrième année, ce qui était difficile, c'est parce que pour tout ce qui était tout le reste, à part le domaine financier chez Cookit, je me permettais d'être la Judith que je suis dans la vie, qui est un peu qui est créative, qui est un peu folle, qui est super désorganisée, mais tu sais, qui est comme juste authentique puis qui fonce. Mais disons que je tombais dans cet aspect-là, c'est comme si là, il fallait que je me mette un masque, puis il fallait que je sois une autre personne, puis j'essayais d'être une personne que je n'étais pas. Donc, ça faisait, tu sais, ça m'enlevait un peu la créativité. Tu sais, tu parles avec du monde de finance, tu veux quand même qu'ils te prennent au sérieux. Déjà, tu es une femme, que genre, on va pas se le cacher, là, c'est plus compliqué quand même d'aller chercher du capital de risque quand tu es une femme. Déjà, tout ça, je me mettais, tu sais, je me permettais pas d'être moi-même. Puis, je pense que Judith, en étant elle-même, elle est beaucoup plus charismatique que Judith quand elle joue quelqu'un d'autre, qu'elle n'est pas trop confortable dedans ses souliers, ben, tu sais, genre, tu perds un peu la passion que tu voyais originalement.
Ouais. Parlons un peu de ce qui se passe en ce moment, la crise, parce que c'est un autre tournant aussi dans ton entreprise, puis pour bien des entreprises, c'est on remodèle, on repense à notre façon de faire, à travailler. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout?
Mais en fait, je vais refaire une petite mise en contexte, mettons. Là, on est en mai 2020. En décembre 2019, on a acheté l'entreprise compétitrice à Cookit qui s'appelait Miss Fresh, qui appartenait à Metro. Ça nous a donné accès à des nouveaux employés, une nouvelle usine, des nouveaux clients, des nouveaux points de chute avec Metro. Donc, ça nous donnait accès à plein de choses. Fait que ça, en fait, ça venait basically doubler Cookit du jour au lendemain. Mais c'est quand même beaucoup de travail, une intégration. Là. C'est deux cultures d'entreprise complètement différentes. C'est des employés, mettons les employés qui étaient chez Miss Fresh avant, que eux on leur enlevait comme 20% des gens qu'ils connaissaient parce que on les remerciait parce qu'on avait déjà ces postes-là qui étaient créés chez Cookit. On avait déjà ces personnes-là, fait qu'on pouvait pas comme conserver les doublons, mettons. Fait que ça, c'est juste avant Noël. Fait que là, c'est comme, t'arraches une partie de Miss Fresh, là, t'essayes de reconnecter des morceaux. Là, nous, on part de Saint-Michel, directement, parce que ça fait 3 ans qu'on est rendu là, fait qu'on est super bien établi, on a un super de bon lien avec la communauté, on a accès à de la main-d'œuvre qualifiée et tout. Et là, on déménage tout ça à Ville-Saint-Laurent. Donc, puis là, le temps de continuer à opérer Cookit et Miss Fresh, là, finalement, commencer à transférer des clients Miss Fresh vers Cookit, après ça, fermer la ligne Miss Fresh. Donc, nous, ça fait, tu sais, mettons, janvier, février, là, ça a été des mois qui ont été quand même difficiles, puis acheter une entreprise à Metro, on se fera pas de cachette, c'est pas comme facile non plus. T'sais. Puis moi, je me suis bookée comme des vacances, j'ai comme, Dieu merci, là. Je suis partie avec les filles de Salty Souls, Erika Drolet et sa gang, au Salvador pour faire une retraite de surf et yoga. Pas d'enfants, pas de chum, pas rien, pas de travail, ce qui est plus ou moins vrai. Puis juste aller faire du sport, ce qui est totalement pas moi. Puis genre faire des listes à l'univers. C'est basically ce que j'ai fait, puis j'en ai des filles pendant une semaine. Pas d'alcool. C'est tellement pas moi. Ouais. Mais tabarouette, hey, on se levait à 6 ans pour faire du yoga, puis aller voir le lever du soleil, puis faire du surf. J'étais pas très bonne, mais j'en faisais pareil, tu sais. Puis ça a été comme une rupture avec, OK, voici ce qui vient de se passer. Ça a été dur, t'as perdu quelques plumes, mais t'sais, perdu quelques plumes quand ça va bien, genre c'est mieux que perdre des plumes quand ça va pas bien, mettons. Puis j'ai vraiment réussi à prendre une semaine pour décrocher et tout. Puis le coronavirus, pendant qu'on est au Salvador, on en entend un peu parler. Mais moi, le monde qui en parle, là, je vais être bien franche avec toi, il me gosse à ce moment-là. Je suis comme, hey, c'est une grippe, on peut-tu changer de sujet, s'il vous plaît? Puis là, pendant que je suis au Salvador, je suis supposée de rentrer à Salt Lake City après pour faire une conférence, pour aller voir une conférence, le Experience Management Summit avec, genre, toutes les plus grosses sommités, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Brené Brown, puis tout. On est super excités, moi puis Laurence, ma directrice marketing, on s'en va là-bas. Puis finalement, ils cancellent ça à cause du coronavirus. Moi, j'étais inquiétée, puis je me souviens, je leur ai écrit un courriel d'insulte parce que je ne comprenais toujours pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis finalement, j'arrive à Montréal, fully ressourcée, j'ai eu 10 jours, je suis toute bronzée, j'ai fait du yoga tous les jours, je suis par peace. Puis une chance, là, parce que tu sais, de rentrer dans la pandémie, les batteries à terre, là, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé, mais tu sais, ça a permis comme un peu de redresser très précurseur, là, puis tu sais, très sur le terrain pendant ce temps-là, c'est aussi en grande partie à cause que tu sais, c'est important de prendre du repos dans la vie, là. Je vais en prendre.
Ouais.
Donc, ça, toute mise en contexte, fait que j'ai une usine qui est à 10 % de capacité parce qu'on vient juste de déménager, on a plein de nouveaux employés, on a du monde fatigué, mais c'est pas grave. Tu sais, fait qu'on a comme, on est très, très bien positionné à ce moment-là pour faire la grande croissance. Et ça a comme été très lent au début, là. Tu sais, c'était comme une vague qui se refermait sur le Québec, puis là, tous les jours, il fermait un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis là, tous les jours, on écoutait à une heure qu'est-ce qui se passait. Mais on voyait aussi le nombre de clients de Cookit là, grimper là, drastiquement parce que les gens veulent plus sortir, les gens, c'est pas le fun à l'épicerie là, depuis le début de la pandémie là, avec les masques, les petites flèches pour aller marcher. J'oublie 3 affaires, tu sais, j'oublie 14 affaires à l'épicerie, je suis comme paralysée, je peux pas y retourner.
Trop stressant là, ouais.
Trop stressant, genre je panique. Puis nous, ça fait des années qu'on se bat pour contribuer au commerce électronique, tu sais, à l'augmentation des parts de marché de commerce électronique en alimentation, tu sais, ça nous aura pris 10 ans pour monter ça à 4%.
Ouais.
Et Dieu seul sait que IGA, ils en fait des initiatives métro, good food, nous autres, let's go, genre comme on investit bien de l'argent puis de bien d'énergie, mais il y aura jamais personne qui aura fait avancer le commerce électronique et la pénétration comme la pandémie qui a vraiment, vraiment venu exploser ça, tu sais.
Tout d'un coup, les gens se rendent compte que, hey, on peut commander des choses en ligne pour la bouffe.
Nous, ça allait super bien. Puis pendant ce temps-là aussi, simultanément, t'as tous mes amis entrepreneurs que là, ça va vraiment plus bien.
Oui.
Il y en a plein qui ont perdu leur entreprise ou qui sont en train de la perdre. Tous mes amis en restauration, hôtellerie, justement, parce que je viens de ce milieu-là. T'sais, c'est la débandade, là. Puis je savais, t'sais, dans ce temps-là, moi, j'étais paycheck to paycheck, là. Puis même pas paycheck to paycheck, là, t'sais, c'était de jour en jour, quasiment, ma vie qui en dépendait. Donc, c'est un petit peu anticlimactique de toi que ça va tellement bien, tes affaires, puis pendant ce temps-là, il y a tellement de monde pour qui ça va pas bien, là, t'sais. T'as un sentiment de responsabilité qui vient avec ça, puis c'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour aider ces gens-là, là, t'sais? Nous, on a la possibilité, puis là, je vais le dire 800 fois, puis mon chum, s'il m'entendait, il rirait, là, mais tu sais, tout le monde a la possibilité, tu peux pas sauver tout le monde, mais tout le monde a la possibilité d'aider quelqu'un, tu sais. C'est pour ça qu'un canné qui du Vernon, il m'appelle, puis il me dit, hey, Jou, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde en restauration, ils sont en train de perdre leur job. Ben moi, j'étais comme, ben parfait, bon, on a certaines promotions parce qu'on offrait des boîtes gratuites à certaines personnes. Là, pourquoi on ne transfère pas ces codes de crédit, ces crédits-là vers les employés de la restauration? On peut les aider. Mettons, tu es le propriétaire de Fireburns. Tu es super stressé de savoir est-ce que IGA va remplir ses tablettes de Fireburns ou de papier de toilette, tu sais, en pleine pandémie. Fait que, tu sais, tout le monde se dit, ben c'est sûr, certain que les produits locaux vont pas être mis de l'avant. Fait qu'on a ouvert nos portes du garde-manger pour rajouter tous les produits québécois du garde-manger. C'est déjà ce qu'on fait, là, dans le sens qu'au Québec, les produits que les clients québécois voient, c'est des produits du garde-manger québécois. Mais ça, ça a été quelque chose de le fun aussi de la pandémie, là, parce que moi, il y a 2 affaires qui m'ont particulièrement frappée. C'est justement l'agilité, la résilience de plein d'entrepreneurs qui justement ont décidé de pivoter leur modèle d'affaires, de se réorienter. Ils faisaient du B2B, maintenant ils font du B2C. Ils faisaient des produits, finalement ils font d'autres produits. Tu sais, ça a été comme de tout réorganiser ça. Puis ça a été le mouvement local aussi.
Ouais.
Je m'y attendais comme pas. Puis là, soudainement, tu vois que ça... Tu sais, que je pense que pour la première fois, je pense que la majorité de la population québécoise va peut-être voir plus l'importance.
Moi, je dis souvent avec mon mari qui est aussi entrepreneur, là, c'est une belle leçon d'économie et de finance en ce moment aussi, cette pandémie-là. C'est-à-dire qu'on comprend comment tout fonctionne dans la société et notre impact, nous, en tant qu'individus, envers les entrepreneurs, envers notre voisin qui a tel commerce, et même le petit dépanneur du coin, le style de ça. Donc, au début, on se disait, l'achat local, peu importe, notre Amazon va plus vite. Mais en ce moment, en se disant, j'achète local, mais ça veut dire que mon voisin peut payer son loyer. Ça veut dire que la business que j'aime, qui fait son petit café, va continuer, fait qu'il y a comme une fierté aussi de se dire, hey, moi, j'encourage les business québécoises, puis là, ça a un impact sur des familles, puis ces familles-là ont un impact sur ma business ou sur mon emploi, fait qu'on dirait, en tout cas, en peu de temps, j'ai l'impression que la roue s'est mise à tourner comme ça, de se dire, chacun peut avoir un impact dans sa communauté, mais aussi dans sa province, et qu'en encourageant aussi cette économie québécoise-là, qu'on se dit, c'est parce que ça va plus vite avec Amazon, mais si on encourage de plus en plus cette économie québécoise-là, bien, ils vont être capables d'être aussi rapides. Parce que j'imagine que toi, avec Cookit, c'est ça qui se passe. Plus les gens investissent dans Cookit en achetant, plus toi, tu es capable de développer à côté puis d'arriver avec des nouveaux concepts, d'inclure des nouvelles choses, non?
Définitivement. Tu sais, nous, on a toujours vécu de la croissance quand même, tu sais, mettons, en moyenne, là, c'est 15% par mois de croissance chez Cookit depuis Inception. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est pas faramineux, mais ça garde quand même tout le temps occupé de... Mais je vais être honnête avec toi, dans les deux dernières années, c'était rendu un peu dur de vendre des meal kits. On m'a appris ce terme-là il y a pas si longtemps que ça, et maintenant, je l'utilise à toutes les sauces. Mais on m'a appris c'était quoi un cancel culture, puis je l'ai vraiment... Je sais pas si tu sais quoi.
Non.
C'est que tu peux faire 800 affaires de correct, mais si tu fais une affaire de pas correct, tu peux être sûr que le monde, ils vont gosser là-dessus, tu sais. Fait que nous, c'était, tu sais, il y a plus de gaspillage alimentaire dans le domaine, tu sais. Mettons, on s'entend, le domaine de l'épicerie est quand même, le modèle de l'épicerie est quand même vraiment brisé. On s'en rend pas compte parce qu'on consomme comme ça depuis toujours. Mais par exemple, si tu vas chez Metro ou chez IGA, puis ils ont pas de tomates, c'est correct une fois, mais si tu y retournes deux fois et ils n'ont pas de tomates, peut-être que tu vas aller chez IGA ou tu vas aller chez un compétiteur parce que tu t'attends en tout temps que ton épicier doit avoir des tomates. Puis c'est correct, tes attentes de consommateurs sont là. Mais ce que ça veut dire pour une épicerie, c'est qu'il doit avoir assez de tomates pour que tout le monde potentiellement qui voudrait avoir des tomates pourrait avoir des tomates.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'ils ne font pas leurs achats en juste à temps. Ils achètent des grandes quantités, des années en avance, pour être sûr que toutes leurs tablettes... Mais l'effet pervers qu'il y a, c'est que c'est quand même 30% de gaspillage alimentaire. Puis c'est des affaires qui sont quand même emballées là, dans des produits plastiques. Ouais. Fait que nous, tu sais... On a fait plein d'initiatives. On avait notre route de kit durable qui est 100% sustainable, qui est 100% aucun déchet alimentaire, aucun déchet packaging. Mais c'était rendu tellement... Tu sais, tout le monde, du moment que tu parlais d'un meal kit, c'était comme, ah ouais, mais il y a trop de plastique là-dedans. Ouais. T'as-tu vu un meal kit? T'as-tu déjà comparé la différence entre ce que tu achètes à l'épicerie? Tu constates aussi l'impact du gaspillage alimentaire sur ce modèle-là? Justement, en 2018, novembre 2018, on a lancé le kit durable qui était... parce que là, on l'a stoppé pendant le temps de la pandémie, là, mais qui était une ligne avec des emballages complètement réutilisables, des Tupperware, basically, puis des ice packs qu'on peut réutiliser et tout. Et ça qui était disponible depuis un an pour tous les gens qui voulaient s'abonner sur le plateau, Rosemont, Saint-Michel, dans ces quartiers-là, Villeray, tu sais. Elle était disponible sur le site web, c'était une option que tu avais quand tu t'abonnais, que tu voyais une fois que tu avais rentré ton code postal. Et quand même, la majorité des gens choisissaient quand même la boîte avec le plastique et tout, tu sais. On était sur le point de lancer une glacière réutilisable, tellement belle, rose, super solide. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment de transférer tous nos clients sur cette route-là, là, de le faire comme en 6 ou 9 mois. Donc ça va être retardé un peu. Mais c'est ça. Donc, entre le modèle, est-ce que Est-ce que le kit à cuisiner a des imperfections? Oui. Ça laisse vraiment de la place à l'innovation. C'est ce qu'on aime le plus faire chez Cookit. Les équipes produits, marketing, service client, opérations sont toutes très, très proches sur cet aspect-là. T'sais, c'est vraiment d'offrir le meilleur produit.
Dernière question, là, parce que le temps file, mais je sais qu'en ce moment, tout le monde doit travailler avec le fait qu'on est à la maison. On le voit en podcast. Ton fils est là autour. Comment tu vis ton rôle de big boss de Cookit, là, qui a tellement d'employés à gérer, plus tes mamans à la maison? Il y a plusieurs choses à gérer. Comment tu fais pour passer à travers ça? Est-ce que tu t'es donné un horaire où tu y vas comme ça va?
Non, je vais vraiment comme ça va. C'est probablement mettons, les deux, trois premières semaines de la pandémie, là, il fallait vraiment scaler puis engager des recruteurs puis ça. Puis on engageait 200 personnes par semaine pendant presque un mois. Puis il fallait les former. Pis ça a été le premier mois de la pandémie, mettons, chez Cookit. Puis pendant ce mois-là, là, mon fils, parce que mon chum aussi dans la business avec moi, fait qu'on était autant occupés les deux. C'était du 17 heures par jour. Puis pendant ce temps-là, il a vraiment fallu qu'il fasse preuve d'autonomie. Là, parce que de se faire dire chut à longueur de journée quand on est sur des conférences Zoom ou au téléphone, c'était vraiment ça constamment. Trop de tablettes, trop de chocolat, trop de name-it, dans le sens qu'on était vraiment lousse. C'était n'importe quoi pour avoir la paix. Là, puis c'est plate. Mais d'un autre côté, en tant que parent, tu te sens vraiment pas top, tu sais. Je trouve qu'être entrepreneur, de concilier ça avec la maternité, autant que des fois ça peut être difficile, mais autant que c'est la plus belle chose au monde, tu sais. Ouais. S'il file pas ou peu importe, j'ai pas besoin de demander la permission à personne. Tu sais, comme, je fais ce que je veux quand il me tente, là. C'est pas tout à fait vrai, là, mais à une certaine limite, oui. Là. J'ai jamais été aussi contente d'habiter à Montréal d'avoir une porte sur l'extérieur. Parce que, honnêtement, je pense que ça vaut de l'or maintenant. Là. C'est pour ça que, mettons, ça me demande d'être en ligne pendant une heure ou deux heures. Là. T'sais, une heure, ça va, mais mettons, deux, trois heures, des gens qui étaient des conférences, des ci, des ça, être sur des board meetings ou des trucs comme ça. Ouais. À un moment donné, tu peux plus. Là.
Ouais.
Il était possible avant. Mais de notre côté, on réussit quand même à plugger vraiment plus de travail dans une journée de travail.
Puis t'as quand même un compagnon, un chum qui t'épaule. T'es dans la business avec toi, qu'est-ce qu'il fait ton chum?
C'est lui qui s'occupe maintenant des finances. C'est un acteur de formation. On a lancé Cookit. En tout cas, pour la petite histoire, on a lancé Cookit ensemble. Pendant que j'étais en train d'écrire le plan d'affaires, j'étais dans une autre relation. Puis après ça, je me suis mise sur Tinder. J'ai eu une date Tinder. Ça a été lui. Fait que mon expérience sur Tinder, elle a été très, très courte. Puis genre, ma deuxième date avec lui, j'ai expliqué c'était quoi le concept d'affaires de Cookit. Puis était comme, aïe, c'est fou, ça, j'embarque. Puis un an plus tard, c'est comme vraiment, il m'a tout le temps épaulé là-dedans. Puis lui, il avait deux enfants. On a eu un troisième enfant ensemble. Donc là, on avait trois enfants à notre charge. Donc, avoir toutes les deux une start-up, quand lui, il partait d'un salaire d'actuaire, ça marchait pas vraiment. Puis lui, il est retourné travailler. Fait que moi, j'ai continué à piloter Cookit pendant un bout. Puis l'année passée, il s'est joint à Cookit officiellement. Et là, il est avec nous officiellement depuis presque un an, bientôt. Ben on est vraiment un team parfait là, parce que c'est ses faiblesses, c'est mes forces, et ainsi de suite là, tu sais.
Fait que tu ferais rien sans lui, et lui ferait rien sans toi finalement là. Si vous êtes rentrés sur Tinder ensemble quand même là. Il y avait une petite destinée ici.
Sauf que notre vie serait sûrement bien différente si j'avais pas swipé à gauche ou à droite.
Bon, écoute, merci Judith. Je veux juste en terminant te poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Ben justement, longtemps j'ai pensé que femme de fer, en fait, au début de ma carrière entrepreneuriale, j'associais trop. En fait, parce que c'est quand même un milieu d'hommes dans mon, dans mon modèle, pas dans mon modèle, mais même dans mes amis entrepreneurs. La plupart de mes amis, c'est des gars et tout. Puis j'ai vraiment longtemps pensé qu'être une femme de fer, c'était plus comme me répliquer face au modèle masculin, jusqu'à temps que je comprenne qu'il y avait vraiment. J'avais une relation encore plus authentique quand j'embrassais toutes mes caractéristiques, disons, à tendance plus féminine. Là.
Mm-hmm.
Comme l'empathie, la confiance, la communication. Maintenant, je pense que justement, pour moi, une femme de fer, c'est une femme qui est justement très, très ambitieuse, mais qui embrace vraiment beaucoup ces qualités-là qui font en sorte qu'on devient limite plus solide que certains hommes en affaires.
Mm-hmm. Est-ce que tu te sens appuyée par les femmes autour de toi en affaires ou c'est les hommes qui t'appuient ou tous en même temps?
Tous en même temps, mais de par encore les proportions, tu sais, je trouve encore qu'il manque un petit push de grandiosité dans certains projets féminins. Chose qui, c'est une caractéristique que je vois plus chez les hommes. Puis au fil des années, je me suis vraiment fait mes amis dans le domaine entrepreneurial qu'on a comme les mêmes ambitions, en fait. Mm-hmm. Mais c'est encore quelque chose que, tu sais, on a encore du advocacy à faire sur ce sujet-là, de voir plus grand. J'étais ambassadrice pour la Fondation Montréal Inc. il y a 2 ans. La demande de subvention, tu peux demander jusqu'à 15 000 $ en subvention. La moyenne de subvention demandée par les hommes est de 15 000 $ et la moyenne demandée par les femmes est de 8 000 $ Donc, tu vois qu'il y a quand même pour aucune bonne raison, là, à part le fait qu'on est plus conservatrice, puis on veut pas comme abuser, puis genre, tu sais, c'est comme... Mais, d'un autre côté, les modèles d'affaires féminins, par contre, ont souvent plus de love avec les clients, l'expérience client et tout. Puis ça, c'est des valeurs qui, je pense, découlent puis qui font boule de neige pour grandir une entreprise. Fait que peut-être sur le long terme, en tout cas. Bref, je vais pas m'en rembarquer là-dedans. Mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment, vraiment beaucoup de démocratiser l'entrepreneuriat féminin. Et quand on se bat puis quand on voit les choses grandioses, probablement que ça va être plus facile d'y arriver que pour ben des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de compétences de leadership, on y excelle de par notre formation de femme.
Absolument. Mais en même temps aussi, quand on a des modèles féminins en affaires, ça fait du bien de voir, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, des modèles féminins.
On n'en voit pas beaucoup, oui.
Ouais.
Alors, tu sais, pendant un bout, je voulais faire une web-série, puis c'est toujours pas un projet qui est mort, c'est juste beaucoup plus long avant de le lancer. mais... T'sais, justement, t'sais, que tu demandes à n'importe qui au Québec, nomme-moi, mettons, 3 femmes d'affaires inspirantes au Québec, on va dire ceux qu'on a vus au Dragon. T'sais, les autres, on ne les connaît pas tant que ça.
Non.
Puis il y en a plein de femmes qui ont des histoires dignes d'être racontées, puis justement, de pouvoir s'identifier. Comme, tu sais, puis l'exemple de Christiane Germain, justement, je trouve qu'il... Tu sais, ou Madame Henkel, qui sont des gens qui sont tellement... c'est plus grand que nature, je dirais, des femmes de classe, si tu veux comme être eux, sont parfaites, sont comme... Mais pour moi, c'était vraiment inaccessible. Donc, plus on va démocratiser des modèles d'entrepreneurs féminins, plus nos jeunes filles vont pouvoir rêver.
Rêver et aller plus loin. Ouais. La meilleure façon de te contacter, c'est comment?
Sur Facebook, encore...
Une fois.
Mais mettons, je vais répondre à un message sur 10 pareil, je suis vraiment pas. Mais je vais toutes les lire, par exemple.
C'est parfait, ça.
Il faut vraiment être accrocheur.
Génial. Ben merci beaucoup, Judith, d'avoir pris ce temps précieux. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis très contente de t'avoir parlé.
Ben, ce fut vraiment le fun. Tu as un temps en particulier pour faire des entrevues. Facilité d'écoute c'est vraiment le fun.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.